Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Les gros prix ne font pas peur aux utilisateurs européens de smartphones. En fait, malgré l'inflation et la crise économique, ce sont les modèles les plus chers qui ont la cote depuis le début de l'année et évidemment Apple en profite. En deuxième partie d'émission, on va revenir avec Félix sur la dernière grosse acquisition d'Apple qui n'allait pas de soi. Le 28 mai 2014, le constructeur s'offrait en effet Beats pour 3 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça a donné? On vous dira tout après le Flash Info. Nous sommes le jeudi 25 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les temps sont durs pour le porte-monnaie, mais il n'empêche, ce sont les smartphones les plus chers qui se vendent toujours plus en Europe. L'étude de Canalys pour le premier trimestre montre que le très haut de gamme fait recette par chez nous. Les modèles à plus de 800$ représentaient plus de 40% du total des ventes en début d'année, et ils sont maintenant majoritaires par rapport aux téléphones plus abordables. Et évidemment, quand on parle de produits chers, eh bien Apple vient immédiatement en tête. Alors que le marché européen continue de piquer du nez dans son ensemble, avec une baisse des livraisons de 13%, Apple s'en sort avec les honneurs. Le constructeur affiche en effet une progression de 1% par rapport à il y a un an, ça paraît peu, mais c'est toujours mieux que la dégringolade de Samsung qui chute de 16%. On note quand même que le prix moyen de vente d'un smartphone de Samsung a augmenté de plus de 10%. Visiblement, le numéro 1 mondial a bien regardé comment Apple s'en sortait et de son côté, eh bien, on essaye aussi de vendre des smartphones plus chers. Et puis Apple renforce sa position en Europe, vu que l'iPhone a représenté un tiers des ventes pendant le trimestre, c'est 5 points de plus que l'an dernier. À la vue de ces chiffres et de ces statistiques, on comprend mieux pourquoi Apple continue d'augmenter ses prix, parce que bah, c'est ce qui marche le mieux au bout du compte. Allez, vous avez bien 1 ou 2 € à donner aux ayants droit de l'industrie de la musique. La redevance sur la copie privée pourrait en effet tomber sur le paletot des ordinateurs et du cloud, en plus des disques externes, des smartphones et des tablettes. Ce qui représente déjà une belle manne pour les détenteurs de copyright. On parle en effet d'un trésor de 300 millions d'euros chaque année. Jamais à court d'idées pour taxer à tout va, les ayants droit lorgnent donc sur la sauvegarde dans le nuage et aussi sur les ordinateurs. Il ne s'agit pas de réclamer des sous aux plateformes cloud, mais aux fabricants qui devraient ainsi vendre leurs ordis plus chers ou prendre sur leur marge, ce qui paraît assez improbable. On parle d'une compensation de 14 € par unité, ce qui rapporterait la bagatelle de 62 millions d'euros supplémentaires. La redevance sur la copie privée permet, on va le rappeler, de compenser les ayants droit pour le droit de réaliser des copies des œuvres sans leur autorisation. Le problème, c'est que l'assiette est toujours plus grande alors que l'appétit des ayants droit semble sans limite. On parle beaucoup de trucs qui coûtent cher depuis le début du Flash Info, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour votre budget. Les futurs chargeurs sans fil devraient offrir 15 watts de puissance pour les iPhone 15, sans avoir à raquer la taxe Apple pour la certification MagSafe. Le standard Qi 2 permet en effet aux chargeurs d'atteindre une puissance de 15 watts, c'est le double du maximum actuel. En ce moment, pour avoir droit à la recharge la plus rapide, il faut impérativement un chargeur estampillé MagSafe. Et ça coûte généralement plus cher que les modèles compatibles avec la norme Qi de première génération. Si l'iPhone 15 devrait logiquement bénéficier du Qi 2, reste à voir si ça sera le cas aussi pour les précédents modèles du smartphone. La recharge magnétique avec le MagSafe a été lancée avec l'iPhone 12 il y a 3 ans. Microsoft a lourdement investi dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, alors du coup, bah, il faut rentabiliser maintenant. À l'occasion des conférences Build destinées à ses développeurs, Microsoft a multiplié les annonces d'intégration de l'intelligence artificielle dans ses différents logiciels. Les utilisateurs de Windows 11 pourront bientôt demander à un copilote de bosser à leur place, enfin presque. On pourra demander toutes sortes de choses à ce nouvel assistant, lointain successeur de Cortana. Comme par exemple de mettre le mode sombre ou de modifier l'agencement des fenêtres sans avoir à fouiller dans les réglages de Windows. Le Microsoft Store, qui est la boutique d'applications de Windows, va également profiter de l'intelligence artificielle pour résumer automatiquement tous les commentaires reçus par une app ou par un jeu. Par contre, l'IA n'aidera toujours pas à faire le tri entre les commentaires légitimes et les commentaires bidons. Enfin, ChatGPT va utiliser Bing pour faire des recherches sur Internet. La base de connaissances du bot ne va pas au-delà de septembre 2021, mais avec cette nouveauté, il pourra répondre à des questions d'actualité récentes. Maintenant que Google et Microsoft ont présenté leur nouveauté d'intelligence artificielle, la balle est dans le camp d'Apple pour la WWDC. La trésorerie d'Apple, eh bien, c'est un véritable trésor de guerre qui ouvre tous les horizons aux constructeurs. Ces dizaines de milliards de dollars au chaud donnent régulièrement des idées aux analystes qui adorent marier Apple à de grands noms comme Netflix ou Tesla, mais en 2014, c'est la surprise. Apple a en effet sorti le carnet de chèques pour s'offrir Beats pour 3 milliards de dollars. Sur le papier, il n'y a pas plus différent entre ces deux entreprises, entre Apple et son image lisse, et Beats avec sa communication très agressive. Avec Félix, on va justement revenir sur ce mariage hors norme. Salut Félix.
Salut Mickaël.
Alors avant d'aborder cette acquisition par Apple, il faut revenir sur l'origine de Beats.
Ouais, Beats a été fondé en 2006 par deux personnes bien connues dans le monde de la musique. Il y a d'abord Dr. Dre, chanteur et producteur star dans le milieu du rap, et Jimmy Iovine, cofondateur de la maison de disques Interscope et un vrai requin de l'industrie musicale. La légende veut que Dr. Dre soit plaint auprès d'Iovine non seulement du piratage de ses chansons, mais pire encore, de la mauvaise qualité des casques et des écouteurs qui servaient à écouter sa musique.
Il faut dire qu'au début des années 2000, l'iPod règne en maître avec ses petits écouteurs blancs qui font le taf, mais en termes de qualité audio, ça va pas très loin.
Ouais, et ça débouche sur la création de Beats en 2006, et histoire de se mettre en route à la technique, Beats travaille avec Monster Cable, qui fabrique des composants audio et vidéo. Le premier vrai produit de la marque Beats est lancé en 2008, il s'appelle tout simplement Beats by Dr. Dre Studio. Le coup de génie de Jimmy Iovine, c'est de faire la promotion de ce produit avec des stars de la pop et du hip-hop. Ça permet à Beats de se faire rapidement une place dans la cible des jeunes adultes.
Alors la vie poursuit son cours chez Beats, et puis il y a un premier coup de théâtre en 2010.
Oui, HTC s'offre 50,1% du capital de Beats. Et il faut dire qu'à l'époque, HTC c'est un des plus importants constructeurs de smartphones Android. D'ailleurs, le tout premier appareil sur Android, c'est un modèle de HTC. Le fabricant met 309 millions de dollars sur la table pour devenir majoritaire chez Beats, avec l'intention de profiter de la notoriété de la marque. HTC laisse tout de même les coudées franches à Beats, qui conserve son image de marque.
Et en 2012, il y a deux gros changements pour Beats.
En effet, déjà à l'été 2012, HTC décide de revendre la moitié des parts qu'il détenait dans Beats, et puis, fin 2012, Beats met fin à son partenariat avec Monster Cable. Donc c'est là qu'Iovine et Dr. Dre décident de reprendre en main toutes les opérations de Beats, que ce soit pour la recherche et le développement ou pour la production en elle-même.
Et deux ans plus tard, c'est Apple qui apparaît dans le paysage.
Les premières rumeurs de discussion entre Apple et Beats remontent au début du mois de mai 2014, et on parle déjà d'un montant de 3 milliards de dollars. Ouais. L'acquisition, elle est confirmée rapidement fin mai, et ça représente le plus gros achat de l'histoire d'Apple. Pour donner une idée, Apple avait acheté Next pour 429 millions en 96.
Avec Beats, Apple s'achète une gamme de casques, mais pas uniquement.
Ouais, Beats avait lancé depuis 2014 un service de streaming de musique, un secteur où Apple n'était toujours pas présent malgré le succès de Spotify. Il était temps pour Apple de proposer quelque chose dans ce domaine, le modèle de l'achat à la pièce dans iTunes commençait à sentir le rouillé. C'est sur les bases de Beats Music qu'Apple Music prend appui, et c'est en 2015 que ce nouveau service est lancé. Jimmy Iovine et Dr. Dre continuent de travailler pour Beats au sein d'Apple, ces deux personnalités sont même essentielles. Leurs intuitions permettent à Apple de rester en phase avec des clients plus jeunes.
Pour autant, Apple n'a pas abandonné les casques Beats, au contraire même.
Effectivement, la famille de produits Beats qui est désormais conçue et produite par Apple s'est renforcée et elle s'est enrichie avec les années avec des écouteurs sans fil et des casques à annulation de bruit. Ils sont aussi parfaitement intégrés à l'écosystème Apple. En fait, ce sont des produits complémentaires aux AirPods et ils ont plusieurs mérites. D'abord, ils sont proposés dans plein de couleurs, rien que ça déjà ça tranche avec les AirPods, et puis ils sont aussi vendus bien souvent moins cher.
Eh bien merci pour ce tour d'horizon rapide, bien sûr, l'histoire de Beats au sein d'Apple est loin d'être terminée. Salut Félix!
Ciao Mickaël!
Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.